Hier, j'étais au parc pour finir de préparer la prédication de ce matin. Et à un moment, un jeune garçon qui devait avoir 7-8 ans s'approche et vient s'asseoir juste en face de moi. Entre nous deux, il y avait une petite table. J'étais assis sur un petit banc et lui de l'autre côté. Et puis je regarde autour de moi, personne. Alors je lui demande au bout de quelques instants, tu cherches quelque chose ? Et il me répond qu'il veut voir les tables. Je ne sais pas si vous avez fait un tour au parc du Blanc-Mesnil, mais certaines petites tables ont un échiquier dessus pour jouer aux échecs. Donc il suffit de venir avec ses pièces pour jouer aux échecs et on peut jouer aux échecs. Mais en fait, sur la table, il y a mes affaires, il y a ma Bible, et donc on ne voit pas le revêtement de la table, on ne voit pas l'échiquier. Et puis toutes les autres tables sont libres. Et il vient s'asseoir là où moi je suis installé. Et donc je me dis, il n'est pas seulement venu voir les tables du parc, mais peut-être entrer en contact avec la seule personne présente à cet endroit du parc à ce moment-là. Après quelques échanges, il me dit, je vais faire un tour, et puis il s'en va. Et en fait, il se promène seul dans le parc. Alors je suis un peu inquiet, parce qu'il m'a dit qu'il fait ça souvent, il vient se promener tout seul au parc. Et donc moi aussi, je vais faire un petit tour et puis j'essaye de le retrouver dans le parc. Et je l'aperçois avec sa mère et d'autres femmes et enfants qui sont en train d'installer des couvertures pour préparer un pique-nique. Alors je quitte le parc rassuré. Sa famille va veiller sur lui. Un enfant qui erre seul dans un parc, ça n'est pas une situation très rassurante, n'est-ce pas ? On se demande où est son père ? Où est sa mère? Qui est-ce qui veille sur lui? Ce n'est pas du tout la même chose avec un adulte. Si vous croisez un adulte seul dans un parc, vous ne vous demandez pas où sont ses parents. Alors qu'un enfant seul, sans surveillance, ça nous étonne. Il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi? Parce qu'il est mineur, sous la responsabilité des adultes. Un enfant livré à lui-même peut se mettre en danger, faire une mauvaise rencontre. Un adulte aussi, vous me direz. Mais les adultes ont en général plus de ressources pour se débrouiller seuls. Et c'est pourquoi la loi protège les mineurs, parce qu'ils sont plus vulnérables que les personnes majeures. Cette situation ne date pas d'aujourd'hui. L'apôtre Paul lui-même utilise cette image de l'enfant mineur et de l'adulte majeur, pour parler de deux types de relations avec Dieu. Il compare la situation d'un enfant mineur à celle d'un esclave, et la situation de l'adulte à celle d'un fils qui peut entrer en possession de l'héritage de son père. Et je vous invite à ouvrir la Bible dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 4. Dans le Nouveau Testament, après les Évangiles, Actes, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates. Et je poursuis ce matin série de prédications sur l'Épître aux Galates. Nous arrivons au début du chapitre 4. Et le titre de cette prédication, c'est « Tu n'es plus esclave, mais fils. » Tu n'es plus esclave, mais fils. Lisons ensemble ce passage, Galates, chapitre 4, versets 1 à 11. Illustrons ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est tout petit, enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des intendants jusqu'au temps fixé par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions des tout-petits, nous étions esclaves des éléments rudimentaires du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et né sous la loi, afin de racheter ce qui était sous la loi, pour que nous recevions l'adoption filiale. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père », comme on l'a chanté tout à l'heure. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu et vous étiez esclaves de Dieu qui, par nature, n'en sont pas. Mais maintenant que vous connaissez Dieu, ou plutôt que vous êtes connu de lui ou reconnu par lui, comment pouvez-vous retourner à ces éléments rudimentaires impuissants et misérables et vouloir à nouveau en être esclave ? Vous observez scrupuleusement les jours, les mois, les saisons et les années. Je crains de m'être donné de la peine pour rien en ce qui vous concerne. Dans ce passage, l'apôtre Paul réfléchit en trois temps. Les deux premiers temps nous sont déjà un petit peu familiers pour nous qui avons parcouru les chapitres précédents. D'abord, il parle de la condition de l'homme sous la loi, dans les trois premiers versets. Et puis, à partir du verset 4, il montre ce que Dieu a fait pour changer cette condition de l'homme sous la loi. Et enfin, au verset 8 et jusqu'au verset 11, l'apôtre Paul donne un signal d'alarme aux chrétiens galates. Et nous allons voir comment ce signal d'alarme résonne encore pour nous aujourd'hui. Premier temps donc, la condition de l'homme sous la loi. Et l'apôtre Paul commence par cette phrase qui est traduite dans certaines Bibles, « Illustrons ce que je veux dire » ou « Voici ce que je veux dire » qui nous renvoie donc au chapitre 3, ce que Paul a dit juste avant, où il parlait du rôle de la loi comme un gardien et un surveillant. Je relis Galates chapitre 3 au verset 23. « Avant que la foi vienne, nous étions gardés sous la loi, enfermés en vue de la foi qui allait être révélée. Ainsi la loi a été notre surveillant jusqu'au Christ, pour que nous soyons justifiés en vertu de la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus soumis à ce surveillant. » Et Simon faisait allusion à notre fresque qui est là au bout tout à l'heure. Et ce que Paul dit de la loi, c'est toute cette partie sombre, noire sur la fresque. Ce temps de l'histoire où l'homme et la femme sont enfermés par Dieu, sous la loi, sous ce principe de devoir être juste devant Dieu en obéissant à toute la loi. Et la venue du Christ est pour nous une libération de cette condition humaine que tout être humain partage d'être soumis à la loi. Et Paul développe cette pensée dans le texte de ce matin, dans la continuité de ce qu'il a déjà dit au chapitre 3. « Illustrons ce que je veux dire, dit Paul, et il parle ici de la majorité légale. » Prenons un exemple. Un garçon qui est héritier d'une grande propriété, d'un grand terrain. Un jour, à sa majorité, il entrera en possession de cet héritage, de ce terrain qui lui est promis. Mais jusque-là, il est mineur et donc sa situation, comme dit Paul, ne se différencie pas de celle d'un esclave. Il est soumis à l'autorité de tuteur et d'intendant qui gère le domaine en attendant que lui, l'enfant, devienne majeur et puisse profiter de ses biens. Il est donc héritier en espérance, mais pour l'instant il est esclave jusqu'au moment fixé par son père, nous dit Paul au verset 2. On connaît quelque chose d'un petit peu semblable en France avec le droit de vote. Nous n'avons pas le droit de voter avant l'âge de 18 ans. Nous sommes pourtant des citoyens en devenir, mais ce n'est qu'à notre majorité légale que nous avons le droit de voter et donc d'exprimer pleinement notre citoyenneté, d'être des citoyens à part entière. À quoi sert cette illustration, cette image que Paul utilise? Il nous donne la réponse ici au verset 3. Je le relis. « Nous aussi, Lorsque nous étions des tout-petits, des enfants, nous étions esclaves des éléments rudimentaires ou des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. La venue du Christ marque dans l'histoire humaine le passage de la situation d'enfant à celle d'adulte majeur. De la situation d'esclave à la situation d'homme libre. De la situation de citoyen en devenir à une situation de citoyen à part entière dans le royaume de Dieu. De quoi s'agit-il ? L'apôtre Paul illustre le fait que dès sa naissance et jusqu'à sa rencontre personnelle avec le Christ, la vie de chaque être humain est comme celle d'un esclave. L'homme est, comme dit Paul, soumis aux principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. C'est-à-dire, tout ce que nous recevons comme éducation, par exemple, tout ce que nous faisons comme choix à partir de notre propre jugement. Les principes élémentaires du monde, c'est tout ce que nous sommes capables de penser et de faire par nous-mêmes, sans intervention particulière de Dieu. Le béaba, les bases qu'on nous a inculquées ou que nous mettons en œuvre. Et ces bases peuvent être différentes d'une époque à l'autre, d'une culture à l'autre, d'un style d'éducation à un autre. Les valeurs d'une morale d'une société changent d'une société à l'autre. Mais il y a un principe de base, un principe fondamental qui est le même pour tous. Nous sommes esclaves de ces principes élémentaires. Pourquoi Paul parle-t-il d'esclavage ? Peut-être certains d'entre nous pourraient témoigner de certaines formes d'esclavage ou au moins de contraintes trop strictes qu'ils ont vécues dans leur éducation. Mais de là à penser que tout être humain se retrouve en situation d'esclave, c'est quand même un peu fort. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici ? Eh bien, il est en train de dire que les capacités naturelles ou acquises par l'éducation des êtres humains ne suffisent pas pour entrer dans une relation personnelle et de filiation avec Dieu. Je relis encore le verset 3. Nous aussi, lorsque nous étions tout petits, nous étions esclaves des principes élémentaires du monde. Nos capacités ou notre éducation ne peuvent pas régler le problème du mal, du péché qui agit en nous. Parce que le péché détourne nos capacités et notre éducation pour les transformer en esclavage. Le péché nous fait croire que par nos efforts, par une bonne éducation, par l'obéissance à des règles et des principes, nous pouvons nous améliorer nous-mêmes. Et nous pouvons, d'une certaine manière, prétendre être justes devant Dieu. Et c'est ce que les gens font, et c'est ce que nous faisons, depuis que le péché est entré dans le cœur des hommes. Le péché nous détourne de l'adoration envers notre Créateur pour porter cette adoration vers notre propre moi, vers notre propre cœur. Et nous pousse à adorer des choses qui ne sont pas Dieu. C'est ce que Paul dit au verset 8, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu et vous étiez esclaves de Dieu qui, par nature, n'en sont pas. De ce péché qui nous pousse à être au centre de l'attention de Dieu par nos propres moyens, nous sommes esclaves, dit Paul. Nous vivions, si nous sommes devenus chrétiens, ou nous vivons, si nous ne connaissons pas personnellement le Christ, nous vivions ou nous vivons dans ce désir et pour ce désir de satisfaire nos propres ambitions sans Dieu. Nous étions ou nous sommes sous la loi, comme dit Paul, c'est-à-dire sous ce principe qui ne peut que nous condamner aux yeux de Dieu, parce que nous sommes incapables d'obéir parfaitement à toute la loi. La loi nous maintient donc en esclavage, sous surveillance étroite, Et tant que nous n'avons pas renoncé à l'ambition de nous rendre justes devant Dieu par nos propres œuvres, nous ne pouvons pas être sauvés. Mais, il y a un mais dans ce texte, verset 4. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et né sous la loi, afin de racheter ce qui était sous la loi. Comme ce père qui avait fixé le temps de la majorité pour son fils et que ce fils entre dans l'héritage promis, ce fils qui était mineur et donc semblable à un esclave, et bien de même, Dieu, le Père Céleste, avait prévu que ce principe de la loi ne dure qu'un temps, afin que tous ceux qui se tournent vers le Christ deviennent fils et filles de Dieu et possèdent l'héritage. Je reviens vers cette fresque, vous voyez, cette couleur noire qui est là pendant un temps dans l'histoire et puis qui s'amenuise, et ce sont ces couleurs vives vers l'éternité qui représentent l'héritage des croyants. Comme le disait Simon tout à l'heure, un jour, le péché, le mal et la mort disparaîtront. Et nous arrivons maintenant au deuxième temps de la réflexion de l'apôtre Paul. Ce que Dieu a fait pour changer de principe, pour changer l'esclavage de la loi en héritage pour des fils et des filles. Dieu a fait deux choses dont nous parle Paul ici. Première chose, verset 4, Dieu a envoyé son Fils. Dieu a envoyé son Fils. Pourquoi ? Dans quel but ? Il y a un double but ici. Premièrement, pour nous racheter ou nous délivrer, selon les traductions, et pour nous adopter. Nous racheter et nous adopter. Et il faut bien faire attention ici de ne pas séparer les deux. Comme je l'ai dit dans une précédente prédication, je le redis ici parce que c'est important. Si nous retenons seulement le mot « racheter », « Ah oui, Dieu m'a racheté », et que nous oublions que nous avons été adoptés, alors nous sommes tentés d'aller vers une foi purement individuelle et peut-être de trouver des excuses pour le péché. « Dieu m'a racheté, donc de toute façon, je peux pécher, c'est pas grave. » Non. Dieu nous a aussi adoptés comme ses fils et ses filles. Et si nous sommes tentés de retenir le mot « adopté » et de laisser de côté le mot « racheté », nous courons le risque d'adhérer à un simple esprit de famille, à un groupe social, à une ambiance, sans passer par la repentance, sans confesser nos fautes devant Dieu. Oui, nous sommes adoptés, oui, nous faisons partie de la famille de Dieu si nous sommes chrétiens, parce que nous avons été rachetés par le Christ. Donc, il nous faut maintenir ces deux ensemble. Le chrétien est racheté et adopté. Gardons en mémoire d'où nous venons, nous sommes rachetés, et gardons en mémoire ce que nous sommes devenus, adoptés en Christ. Question maintenant, comment le Christ nous a-t-il rachetés ? Paul a déjà répondu à cette question, donc je ne vais pas m'y étendre ce matin. Chapitre 1, verset 4. Le Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous délivrer du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Le Christ est venu pour nous sauver, pour se donner lui-même pour nos péchés, mourir à notre place pour nos péchés. Et au chapitre 3 et au verset 13, Paul nous dit que le Christ a racheté de la malédiction de la loi ce qui était sous la loi en devenant malédiction pour nous. C'est-à-dire que Christ a pris sur lui le châtiment que nous méritions à cause de nos fautes. Alors on pourrait se demander, pourquoi Jésus et pas quelqu'un d'autre ? Pourquoi pas un sage bouddhiste ou un prophète de l'islam ou un saint parmi les hommes qui ont vécu sur cette terre ? Et il y en a eu, des hommes et des femmes, de bonne volonté, qui ont fait beaucoup de bien. Pourquoi Jésus, et seulement Jésus, nous dit l'Écriture? Trois éléments de réponse, nous dit Paul ici. D'abord, parce que Jésus est Fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas si nous réfléchissons toujours bien à ce que cela veut dire, Fils de Dieu. Cela veut dire que Jésus est de même nature que Dieu. Il est Fils de Dieu. Le Concile de Nicée dit « engendré, mais non créé ». Pour s'opposer à une erreur, toujours d'actualité, chez les témoins de Jéhovah par exemple, qui pensent que le Fils de Dieu est une créature, une sorte de super-ange. Jésus n'a pas été créé. Il a été engendré. Il est Fils de Dieu. On peut faire une comparaison avec la filiation humaine. Notre père et notre mère ne nous ont pas créés. Ils nous ont engendrés. Ils nous ont transmis la vie. Ils nous ont transmis la nature humaine. Nous partageons avec nos parents, même si nous avons des différences, nous partageons avec nos parents la même nature humaine. Eh bien, de la même manière, le Fils et le Père céleste partagent ensemble la même nature divine. Deuxième raison, pourquoi Jésus? Parce que Jésus est homme, né d'une femme. Ça peut paraître banal, c'est fondamental. Dieu, le Fils, s'est incarné, comme on dit, comme dit l'Écriture. C'est-à-dire que, en plus d'être Dieu, le Fils est devenu homme. Il a endossé la nature humaine. Jésus est Dieu qui s'est fait homme. Jésus est à la fois Dieu et homme. Troisième raison, pourquoi Jésus et personne d'autre? Parce que Jésus est né sous la loi, dit Paul. Dieu est venu visiter son peuple en la personne de Jésus. Et ce peuple, c'est le peuple juif à qui Dieu avait donné sa loi. Et en tant qu'enfant juif, Jésus a été soumis à toutes les exigences de la loi juive. Il a reçu lui aussi le béaba, les principes de base, principes élémentaires de son temps et de sa culture. Mais à la grande différence de tous les autres juifs et de tous les autres êtres humains, Jésus est le seul qui est parfaitement obéi à toutes les exigences de la loi. La Bible témoigne à plusieurs reprises qu'il était sans péché. Comprendre cela exige de nous un acte de foi, parce que c'est difficile à croire qu'un homme n'ait jamais péché. Et pourtant, c'est fondamental. Pourquoi est-ce que c'est fondamental? Parce que si Jésus n'avait pas été sans péché, il n'aurait pas pu nous racheter, nos pécheurs, parce qu'il n'aurait pas valu mieux que nous. Et j'aimerais vous lire juste quelques mots de John Stott à ce sujet, qui résume un peu ces trois réponses à la question « Pourquoi Jésus et personne d'autre ne peut nous sauver ?» La divinité, l'humanité et la justice de Jésus-Christ le qualifient de façon unique pour être le Rédempteur, le Sauveur de l'humanité. S'il n'avait pas été un homme, il n'aurait pas pu racheter des hommes. S'il n'avait pas été juste, il n'aurait pas pu racheter des hommes injustes. Et s'il n'avait pas été le Fils de Dieu, il n'aurait pas pu racheter des hommes pour Dieu, ni en faire des fils de Dieu. Le Fils est venu nous racheter pour faire de nous des fils et des filles. Première action de Dieu, donc, Dieu a envoyé son Fils. Et c'est pas n'importe qui. Deuxième action de Dieu, il a envoyé son Esprit. Je relis Galates, chapitre 4, verset 6. « Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Dieu a envoyé son Fils. Paul dit même, il a envoyé l'esprit de son Fils qui vient confirmer la divinité de Jésus. Le Père, le Fils, l'Esprit travaillent ensemble pour sauver les hommes. Et le cri du chrétien, c'est le cri de l'Esprit de Jésus en nous. Ce cri qui dit « Père » ou « Mon Père ». C'est ça la traduction du mot araméen « Abba » ou « Abba ». C'est ce terme que Jésus utilisait lui-même dans ses prières. « Mon Père ». En nous adoptant comme fils et filles, notre Père Céleste veut nous faire vivre quelque chose de la relation qui existe entre lui et son Fils. Vous imaginez ça ? Dieu le Père nous adopte comme fils et filles à cause de Jésus pour nous faire goûter à la relation que le Père et le Fils ont entre eux. Nous ne sommes pas des dieux, et pourtant, en Christ, par son Esprit, nous pouvons appeler Dieu mon Père, individuellement, et notre Père, ensemble. Nous l'avons chanté tout à l'heure, notre Père. Et ça, ça n'est pas une question de formule rituelle à prononcer. Ce n'est pas une question d'expérience sensorielle ou sentimentale. L'expérience chrétienne, si on veut utiliser le mot expérience qui est un peu mis à toutes les sauces aujourd'hui, l'expérience chrétienne, c'est l'œuvre de Dieu en deux actes. Dieu a envoyé son Fils pour porter nos péchés et nous délivrer de l'esclavage de notre propre orgueil. Deuxième acte, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils habiter en nous pour nous rappeler qui nous sommes. Avoir des connaissances sur Jésus ne suffit pas pour être fils de Dieu. Il faut que l'Esprit de son Fils vienne habiter en nous et transforme nos pensées, nos sentiments, nos choix de vie, nos vies tout entières de l'intérieur. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne sommes, dit Paul, que des esclaves. Mais aux chrétiens, l'apôtre Paul dit, verset 7, ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier, grâce à Dieu. Et tout est dans ce grâce à Dieu. Pour le chrétien, il y a un avant et un après. Avant, c'est la vie sans l'Esprit de Dieu. Après, c'est la vie avec l'Esprit de Dieu. Souvent, ça se passe un jour précis. La conversion. Et ce n'est pas le mot conversion, je me convertis à une religion. C'est Dieu qui me fait faire un demi-tour. Mais ce n'est pas toujours un jour précis. Certains d'entre nous pourraient témoigner que leur rencontre avec le Christ a pris un certain temps avant de devenir clair pour eux. Mais il y a un avant et un après. Et dans cet après, nous pouvons voir dans une certaine mesure, le fruit que porte l'Esprit de Dieu dans nos vies. Le problème dans cette lettre que Paul adresse aux Galates, c'est que les Galates, des chrétiens, des jeunes chrétiens, sous l'influence de faux enseignants, sont tentés de faire marche arrière, de revenir à leur vie d'avant et à ses principes, au temps où ils ne connaissaient pas Dieu, comme dit Paul. Relisons ensemble à partir du verset 8. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu et vous étiez esclaves de dieux qui par nature n'en sont pas. Mais maintenant que vous connaissez Dieu, et surtout que vous êtes connus de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires impuissants et misérables et vouloir à nouveau en être esclaves ? Vous observez scrupuleusement les jours, les mois, les saisons et les années ? Je crains de m'être donné de la peine pour rien en ce qui vous concerne. Et c'est là le troisième et dernier temps de cette prédication. une alerte, un signal d'alarme lancé par l'apôtre Paul aux chrétiens des églises de la Galatie. Et peut-être un signal d'alarme pour nous aussi. Quel est ce signal d'alarme ? Paul dit à ces chrétiens, à ces jeunes chrétiens, « Vous étiez esclaves de vous-même. Vous dites que Jésus vous a délivré de cet esclavage. Pourquoi est-ce que vous retournez à votre ancienne vie ? À vos anciennes habitudes ? À votre ancienne manière de penser, de mener votre vie ?» C'est ça. On retrouve la même expression « principe élémentaire » ici au verset 9 qu'on avait trouvé au début, au verset 3. Et ici, Paul parle de l'idolâtrie, des dieux grecs et des dieux romains, auxquels les Galates, avant de devenir chrétiens, eh bien, faisaient des promesses ou des sacrifices pour s'attirer leur faveur et ainsi satisfaire à leurs propres ambitions. Parce que les dieux de la mythologie, on les craint et en même temps on les manipule. On manipule des dieux pour mener sa vie comme on l'entend. Mais en entendant l'évangile, les Galates découvrent que leur raisonnement, leurs sacrifices sont faux et leurs actions, c'est de l'idolâtrie. Ils adorent des dieux qui n'existent pas. Ils adorent des illusions, ils adorent leurs propres idées, leurs propres fantasmes, ils se projettent dans des statues de pierre. Ils découvrent que ces dieux sont, comme le dit Paul au verset 9, sans pouvoir ni valeur. Et que c'est par la seule grâce de Dieu en Christ que l'on peut être sauvé. Et non à force de sacrifices ou de prières à des choses ou à des dieux qui n'en sont pas. Et puis ces jeunes chrétiens voient arriver dans leur jeune communauté chrétienne des enseignants, des faux enseignants, qui leur disent « Ah oui, vous êtes devenus chrétiens, vous avez mis votre confiance en Jésus, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi pratiquer la loi de Moïse, revenir à des règles. Votre foi en Christ, c'est bien, mais qu'est-ce qui vous garantit que vous allez être sur le bon chemin ? Eh bien, respectez les fêtes religieuses. Respectez-les strictement. Le sabbat, tel jour, de telle heure à telle heure, pas une heure avant, pas une heure après. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas être sauvé. Et ces jeunes chrétiens en Galatie sont séduits par ce discours. On en apprend un petit peu plus ici, sur ces faux enseignants. On n'en a pas tellement parlé encore dans cet épître. Et d'ailleurs, quand l'apôtre Paul en parle, ce n'est pas directement. Il ne leur fait pas trop de place pour ne pas leur faire trop de pub. Mais le danger est bien là. Et Paul tire la sonnette d'alarme. Il tire la sonnette d'alarme au point qu'il met au même niveau, me semble-t-il, l'idolâtrie de ces Galates avant qu'ils deviennent chrétiens et la doctrine de ces faux enseignants qui veulent que les Galates obéissent à des règles pour que Dieu les aime et les sauve. On pourrait résumer ce signal d'alarme de la manière suivante. Si vous cédez à ce chantage d'obéir à des règles pour être sauvé, pour être aimé par Dieu et sauvé par Dieu, si vous cédez à ce chantage, vous perdez la foi. Et moi, Paul, j'aurais travaillé pour rien. Alors, la prochaine fois, lorsqu'on étudiera la suite du chapitre 4, on verra la partie de la lettre qui est peut-être la plus personnelle et qui montre l'intimité et l'intensité des relations entre Paul et ces jeunes chrétiens. Et on entrera un peu plus profondément dans la fausse doctrine qui circule là, dans les églises en Galatie. Mais pour ce matin, je vais m'arrêter là et revenir sur quelques considérations plus pratiques. En fait, en relisant ce texte, je me rends compte qu'il répond à deux questions, ce passage que nous avons lu ce matin. Première question, c'est « Qu'est-ce que la vie chrétienne ?» Et la deuxième question, c'est « Comment vivre la vie chrétienne ?» Qu'est-ce que la vie chrétienne ? La vie chrétienne, c'est une vie de fils et de filles, et non d'esclaves. Vous entendez ça ? Si nous appartenons à Dieu, en Christ, il nous considère comme ses fils et ses filles adoptives, non pas comme des esclaves. Dieu nous appelle à la liberté et non à l'esclavage. Tout le message de cette épître aux Galates, on y arrivera au chapitre 5. Liberté ne veut pas dire qu'il n'y a plus aucune contrainte. Et il faut faire attention à une autre tentation, à une illusion, qui serait d'opposer la vie par l'esprit avec certaines obligations. Il est nécessaire d'obéir à la parole de Dieu, mais pas pour être sauvé. Nécessaire d'obéir à la parole de Dieu parce que des fils et des filles veulent faire la volonté de leur Père céleste. Non pas comme des esclaves, mais comme des enfants bien-aimés. Libre veut dire que nous sommes libérés de devoir prouver à Dieu notre propre justice. C'est ça la liberté. Nous sommes libérés de cet esclavage, de ce désir qui tourne en rond, de vouloir prouver à Dieu que nous sommes bons. Et Dieu nous dit, mon fils, lui, il est bon. Mets ta confiance en lui et tu seras sauvé. Tu ne peux pas me prouver ta justice et ta bonne foi. Tu es pécheur. Je t'aime. Reviens vers moi. Confesse tes fautes et embrasse la vie de fils et de fille de Dieu. Être libre, c'est reconnaître avec le fils prodigue dans la parabole de Luc chapitre 15, « Père, j'ai péché contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » C'est vrai. Il n'est pas digne d'être appelé fils de son père. Mais avant qu'il ait pu dire « Traite-moi comme l'un de tes esclaves », le père l'arrête et il organise la fête et il lui donne un habit de fête et une bague à son doigt. « Non, tu es mon fils. Je te reconnais comme mon fils. » Ce fils qui revient vers son père confesse sa faute, mais l'histoire ne s'arrête pas là. La repentance n'est qu'une étape et non pas un but. Après la repentance, il y a la fête, il y a la joie partagée avec le père, il y a les habits de prince. Et au contraire, dans la suite de l'histoire, de la parabole, le fils aîné, lui, montre qu'il est un vrai esclave. Lui, il est respectueux des fêtes, des jours spéciaux, de tous les rituels exigés par la loi. Comme ces Galates qui reviennent vers les rituels, voilà, pour se dire que s'ils ont fait le sabbat tel jour à telle heure, ils sont des vrais chrétiens. Et ce fils aîné dans la parabole représente là bien ces chrétiens. Ces faux enseignants qui séduisent les chrétiens en Galatie. Ce fils aîné de la parabole espère obtenir la faveur de son père par son obéissance à des règles. Mais en agissant ainsi, il passe à côté de la joie et de la relation avec son père. La vie chrétienne est une vie de fils et de filles, pas d'esclaves. Ça, c'était la réponse de Paul à la première question. Qu'est-ce que c'est la vie chrétienne ? Une vie de fils et de filles libres. Deuxième question, comment vivre cette liberté, cette vie chrétienne de fils et de filles ? D'abord, en gardant en tête ce signal d'alarme de Paul et en restant en éveil, en alerte. Tout discours ou action qui veulent nous rendre plus esclaves en nous faisant croire que nous serons vraiment des fils si nous faisons telle ou telle chose est un mensonge. Bien sûr, il y a une part de vérité, comme dans tous les mensonges. Mais notre filiation, le fait que nous soyons fils et filles, ne peut en aucun cas dépendre de ce que nous faisons. C'est Dieu et Dieu seul en Christ qui nous adopte comme ses fils et ses filles. Nous ne pouvons pas devenir fils et filles de Dieu par nous-mêmes. Nous ne pouvons qu'être adoptés par la seule grâce de Dieu. Et être chrétien, c'est nous rappeler sans cesse, jour après jour, ce que nous étions et pourquoi Dieu nous a rachetés. Et ce que nous sommes aujourd'hui parce que Dieu nous a adoptés. Ce que nous sommes devenus par adoption. Et cette pensée, mes amis, frères et sœurs, cette pensée, ce sentiment, cette conviction de la foi nous permettra de résister à la tentation de revenir en arrière, de revenir à notre vie d'avant, quand nous nous disions que, quand même, si nous faisons ci ou ça, nous pouvons faire valoir à Dieu ce que nous sommes. Nous pouvons alors résister à cette pensée et grandir dans une relation de confiance avec notre Père Céleste et les uns avec les autres. Nous allons prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.